Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, au sommaire de l'actualité, nous parlerons des projets Kickstarter que nous avons sélectionnés. On causera également de Europa, un jeu indépendant qui, je pense que tu seras avec moi, Mandrane, a l'air d'avoir une ambiance très très chouette.
Exact.
On causera de The Elder Scrolls Online, où on a eu de plus amples informations, n'est-ce pas? On parlera de StarCraft 2, de Microsoft, qui a annoncé que Halo ne serait pas porté sur PC. Quelle surprise!
Oh.
Miyamoto, qui a eu quelques propos récemment, je crois. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit, Mandrane?
En gros, c'est sa mission d'évangélisation sur la Wii U, en fait, des développeurs et des éditeurs tiers.
D'accord. Et puis, nous aborderons le cas d'un bug critique sur Assassin's Creed Vita. Et enfin, nous terminerons, vous l'aurez deviné, on ne pouvait pas passer à côté, par GTA V, parce que bon, quand même, hein, c'est GTA, faut pas déconner, hein.
La tonne d'informations.
Ouais, là, ça y est, Rockstar a ouvert les vannes, ils se sont lâchés. Les dates, évidemment, et pour finir, eh bien, nous parlerons d'un jeu indépendant, mêlant puzzle et plateforme, qui s'appelle PID. Bon, c'est parti, on va commencer donc par les projets Kickstarter de la semaine. Bon. Mandrane, toi qui es chez nos amis british, est-ce que tu peux nous dire avec ton accent si particulier comment s'appelle ce projet?
Sir, you are being hunted.
Yes. Donc, sir, you are being hunted. Alors, pour résumer, le concept du jeu, c'est que vous allez jouer un humain qui se fait chasser par des robots, tout simplement. Et l'idée vraiment, c'est que d'une partie à l'autre, ça ne va pas du tout le même jeu, parce que l'environnement est généré de manière procédurale, déjà. Ensuite, c'est un jeu sandbox, c'est-à-dire qu'en gros, donc vous avez joué un humain qui est chassé par des robots, et dans cette partie, en fait, vous allez devoir déjà, d'une part, échapper aux robots, bien évidemment, d'autre part, trouver des éléments qui vous permettront de fuir l'île où vous êtes emprisonné, en fait, parce que vous êtes sur une île.
Il paraît que c'est un archipel, même.
Ouais, un archipel. Et donc, voilà. Franchement, moi, je sais pas ce que t'en penses, Mandrane, mais le concept, déjà, je trouve très suffisant. Ouais. Et en plus, la direction artistique du bousin a l'air quand même très, très chouette.
Ouais, moi, j'aime bien, de toute façon, les jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, à la Amnesia, ou dans le sens où tu peux pas combattre, en fait. Et il faut fuir, tout simplement. J'aime beaucoup. Alors ça peut paraître étrange, mais j'aime bien les personnages qui sont faibles, parce qu'en termes de roleplay, c'est je pense beaucoup plus intéressant qu'un personnage invulnérable.
Bon, après quand même, tu pourras te défendre, n'est-ce pas? Tu pourras choper des
armes.
Oui,
bien sûr.
Si vous voulez, ils ont insisté sur le fait qu'ils s'étaient inspirés un peu de Tiff. Donc ça, quand même, il y a une bonne part qui est faite à l'infiltration, quoi, quand même. Ce qui m'a fait rigoler aussi, c'est que leur moteur, ils insistent bien qu'ils ont voulu faire en gros un moteur qui pouvait recréer la campagne anglaise, donc mais c'est vrai que tu retrouves dans l'environnement, il y a quelque chose comme ça, enfin tu sens qu'il y a la patte british, quoi, tout de suite. Parce que on précise, donc c'est un jeu qui est fait par le studio Robot Games, et en fait c'est un des premiers projets qui sont lancés par les studios britanniques, parce qu'il faut savoir que Kickstarter, donc je rappelle, à la base c'est ouvert uniquement à nos amis américains, n'est-ce pas, enfin états-uniens pour être précis, mais récemment Kickstarter s'est ouvert au studio britannique. Et donc ça fait partie de cette vague-là. D'ailleurs, il y a un autre jeu dont on parlera après qui fait partie de cette vague. Et Robot Games, c'est entre autres un studio qui est dirigé par l'un des rédacteurs de Rock Paper Shotgun, qui est un site qu'on apprécie beaucoup à Game Info. C'est le sœur Jim Rossignol, n'est-ce pas? Et donc voilà, on sent bien la patte british sur ce jeu, et le concept a l'air vraiment super.
Le jeu est financé déjà d'ailleurs, il a trouvé son financement, je crois que c'était 40 000 livres, puisque maintenant c'est plus des dollars, c'est des livres. Donc c'est ils sont à presque 60 000 là, donc il leur reste 20 jours pour clôturer, donc ça peut être que du bon pour eux.
Bah, c'est pas mal, d'autant plus que la livre est assez pénalisante, je pense, pour les projets anglais, parce que on va l'aborder sur le projet suivant, mais ça douille sévère, hein, la conversion dollar-livre.
Les taux de conversion, alors ne serait-ce qu'en euros, c'est une livre, il faut 1,20€. Alors pour les dollars, c'est presque presque 1,50$ pour faire une livre. Donc ouais, ça fait du mal.
Ça fait du mal. Donc comme je disais, nous allons aborder le projet suivant, qui est aussi un projet d'un studio british. Ça s'appelle Sui Generis. Alors ce projet, il a quand même un défaut, si vous voulez, c'est que certes, ils ont un moteur qui, je pense que tu seras d'accord avec moi, Mandrane, a l'air quand même assez avancé. Enfin, ils ont vraiment fait des choses très chouettes. Le problème, c'est que moi, je pense que leur campagne ne marche pas pour le moment, parce qu'il faut être clair, ils demandent plus de 100 000 livres.
Ouais, il manque 111 000 livres pour le moment au projet, et plus que 18 jours avant de clôturer. Donc oui, c'est un poil alarmant pour le moment.
Donc, ils ont un souci, c'est que les gens leur ont dit, mais ouais, votre moteur il est super chouette. Mais le jeu c'est quoi? Parce que dans un RPG c'est important aussi, tu vois, l'univers, l'ambiance, etc. Donc moi, ce que je vous incite à faire, c'est aller regarder les updates qu'ils ont faites sur le projet, où ils parlent un peu de leur univers. Alors en gros, pour résumer, le projet a l'air de ressembler à de la fantasy un peu classique, mais ils ont insisté sur le fait que ils ont pris un setting classique, mais qu'ils veulent faire quelque chose de pas classique avec, en fait. Ce qui peut être intéressant.
Ce qui peut être intéressant, oui, pour casser l'école, justement.
Le problème, maintenant, c'est que je pense que il y a eu un petit souci d'attitude au début de la part des développeurs de ce projet, c'est que en gros, enfin, ils ont mal pris le fait qu'on leur faisait pas confiance, quoi. Mais il faut bien qu'ils comprennent que ils arrivent un peu sur le marché, personne les connaît, c'est normal. Alors certes, ils ont un moteur, franchement, qui rien qu'au niveau de la physique, ça a l'air très très bien.
Et des lumières aussi.
Ah oui, la gestion des lumières. Bref, ils ont l'air d'avoir vraiment un outil pour faire un bon RPG. En plus, il y a la gestion du climat, tout. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très avancé, leur truc. Mais à côté de ça, il faut présenter un peu plus leur univers, qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes de gameplay, etc. Alors en termes de gameplay, a priori, ils veulent pas faire un jeu linéaire. En gros, ils veulent vraiment faire un jeu où c'est vous qui allez construire votre histoire, quoi.
Il y a un monde ouvert, évidemment.
Donc je répète, ça s'appelle Sui Generis. Mais encore une fois, je pense que en dehors des soucis de communication sur le projet, la livre, ça leur fait très très mal, parce que bon, on n'a pas fait le récap de tous les projets britanniques qui sont lancés là. On a sélectionné ceux qui nous intéressaient, mais je pense que d'une manière générale, les projets britanniques sont vraiment pénalisés par la livre, quoi. Et d'ailleurs,
ah oui, ça c'est certain.
Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des projets en dollars et attirer plus de monde? Alors oui, ça coûte de l'argent effectivement, mais
ouais, c'est sûr.
Est-ce que vraiment la livre, waouh, ça ça douille, quoi.
Ouais, bah moi qui y suis en ce moment, oui, je peux te dire que ça fait mal. Ouais.
On va parler d'un jeu indé, ça s'appelle Europa. Europa, du même nom que la lune de Jupiter, n'est-ce pas? Et ça ne s'appelle pas comme ça pour rien, parce que, en fait, vous l'aurez compris, vous allez jouer sur la lune de Jupiter. Alors, c'est un jeu de science-fiction, d'action-aventure, de ce qu'on a compris. Je vous cache pas que le gameplay est encore assez flou. Ils ont l'air de s'inspirer de Fallout 3, apparemment, de ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils ont un peu trollé un Fallout 3 où tu serais pas déçu au bout d'une centaine d'heures de jeu. Donc, en gros, C'est un Fallout 3 dans l'espace, de ce qu'ils disent, et bon, autant sur gameplay, on n'a pas vu grand-chose, mais je vous incite à voir le trailer qui dure à peu près 7 minutes. Il y a, au niveau du travail sur l'ambiance à la fois visuelle et sonore, il y a un truc, quoi.
Ouais, beaucoup de body awareness aussi. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien l'ambiance en tout cas.
Ouais, la vidéo, en fait, ça commence dans un vaisseau, où t'entends une voix qui te dit que le vaisseau va se crasher et tout, enfin. Il y a vraiment un travail sonore qui, moi, m'a bluffé. La direction artistique a l'air super. Donc, je répète, ça s'appelle Europa. On en attend de savoir plus pour vous en parler plus en profondeur. Mais en tout cas, ça nous intéresse beaucoup à Game Info.
C'est sûr.
Bon, c'est terminé pour les indés cette semaine. On va s'attaquer au gros morceau, n'est-ce pas? Et on va commencer par The Elder Scrolls Online.
Oui. Alors, The Elder Scrolls Online, ça a été révélé, il me semble, à l'E3 dernier, ou peut-être un petit peu avant. On n'en savait pas du tout, enfin, on savait rien du tout sur le jeu, on savait juste que, très logiquement, ça serait un Elder Scrolls Online, un MMO donc, un MMORPG. On a eu une longue vidéo de presque 10 minutes de présentation avec les développeurs sur ce jeu. On sait notamment à quoi correspondra la carte, et on sait par exemple que il y aura tout Tamriel, donc on aura par exemple la possibilité de redécouvrir Skyrim, Morrowind, Cyrodiil, et a
Ah,
priori
Morrowind.
le jeu se place 1000 ans avant Skyrim, le jeu, donc dans une période un peu troublée.
Ça, on le savait déjà, mais en gros, l'idée, c'est que bon, c'est une période au début, au niveau de la timeline qui est pas très connue, en fait. On sait juste que
Exact.
c'est une période assez sombre, parce que c'est une période où les princes d'Aedra, bon, c'est la fête, quoi. En gros, ils ont voulu prendre cette période-là parce que ça leur donnait une certaine liberté au niveau du background, tout simplement.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs.
Je crois qu'on a eu donc quelques précisions, notamment au niveau des serveurs aussi, qui sont
Ouais.
assez intéressantes.
Ça, c'est ouais, un système qu'ils appellent méga serveur. Donc en gros, ils parlent de la frustration des joueurs au niveau du lancement dans MMO. La plus grosse frustration des joueurs de MMO, c'est de ne pas pouvoir jouer parce que leur serveur est down ou leur serveur est plein. Ici, ils veulent dans The Elder Scrolls Online ne pas avoir cette frustration-là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une technologie qu'ils appellent méga serveur et qui va en gros répartir les joueurs sur un seul et même serveur, mais avec des endroits différents, en fait des sortes de mini serveurs dans le serveur où il y aura des joueurs répartis à cet endroit-là.
Oui, en gros, c'est Avon là, hein.
Ouais, donc ça je pense que c'est intéressant d'autant plus que les joueurs seront regroupés selon leurs affinités. Donc si vous avez une liste d'amis par exemple, le méga serveur va essayer de vous répartir au même endroit. Donc ça je pense que c'est une bonne chose. Bon, par contre, bien évidemment, il faut que ça marche. Si ça marche pas, ça peut poser de gros problèmes. Si un seul serveur marche pas, c'est différent que si un petit serveur sur 1000 ne marche plus.
Et aussi, enfin, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, rien qu'au niveau, tu vois, du roleplay, je pense que ça peut être pas mal parce que mine de rien, quand t'es sur des serveurs uniques comme ça, tu as tendance à continuer à parler français, par exemple.
Oui.
Et ça peut créer différents langages, tout simplement. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, ça, moi, je pense que ça renforce l'immersion parce que tu as des mecs qui parlent anglais, tu as des mecs qui parlent, enfin, je sais pas, moi, chinois.
Le côté un peu cosmopolite, ouais.
Si c'est bien fait en tout cas, si les mécaniques du jeu sont bien faites, tu as tendance à faire du roleplay sans t'en rendre compte. C'est notamment le cas sur EVE Online, où t'as, bon, tu parles français, après bon, t'as les gens qui parlent anglais qui sont chargés d'aller négocier avec les corporations anglaises, etc. Vraiment, ça crée une immersion que t'as pas sur les serveurs, tu sais, où tout le monde parle français, tout le monde parle anglais, tout le monde parle machin. Bon, après, évidemment, il faut que la structure du jeu suive. Par exemple, sur EVE Online, je pense que le fait que tu n'es pas en sécurité partout, ça peut créer des clashs, ça force les gens à discuter entre eux, etc. Enfin bref, ça crée quelque chose. Alors que là, il me semble que par contre, sur The Elder Scrolls Online, a priori, par exemple, il n'y aura pas de PVP ouvert, quoi, de ce genre de choses.
Alors ça, on ne le sait pas.
D'accord?
C'est une des choses dont dont ils n'ont pas parlé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura, enfin, ce qu'on nous a promis, en tout cas, des batailles PVP à très très grande échelle. Donc, on, dans la vidéo dont je parle, par exemple, à la fin, on voit un siège, tout simplement, donc une espèce de d'énorme guild avec des centaines de personnages qui essaient de tenir un château, et l'autre guild d'en face qui arrive avec des catapultes, des trébuchets, et ça commence à se fighter bien comme il faut. Donc ça, déjà, c'est très impressionnant d'avoir autant de personnages joueurs à l'écran dans un MMO.
Bon, après, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, Dark Age of Camelot, etc. Bon, ça bien date, sûr. Hein.
Mais disons que ça peut être intéressant aussi en termes de roleplay, parce que ces phases-là vont être incorporées dans la carte, c'est-à-dire que à certains endroits, il y aura des citadelles, et ces citadelles, vous pourrez les assiéger, les tenir, et avoir du coup une influence sur la région. Donc ça peut être très intéressant, à mon avis, sur un serveur, et donc essayer de monter une guilde très influente, et en tirer les revenus, bien évidemment. Donc ça, je pense que c'est intéressant, et du coup, en termes de roleplay, puisque les guildes adverses vont essayer de vous la reprendre, je pense que c'est vraiment sympa. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est instancié ou pas. Donc ça va certainement être détaillé un petit peu plus tard, mais pour le moment, on est plus dans les promesses que dans les gros détails.
Bah, ça va faire assez bizarre, si moi je pense que c'est contradictoire d'instancier ce genre de truc PVP sur un serveur unique, quoi. Enfin, moi il y a un truc là qui me chiffonne un peu, quoi. Parce que si tu veux, du coup, quand tu captures un fort, bah t'as pas l'impression d'avoir capturé le fort, en fait, quoi. T'as capturé le fort de l'instance de machin. Enfin, ça me paraît un peu contradictoire avec vraiment le concept de serveur unique, quoi.
Donc c'est pour ça qu'on n'en sait pas encore assez pour se prononcer sur ce système de méga serveur plus conquête de forteresse. On aimerait bien en savoir plus, évidemment. Donc il est possible qu'à terme une guilde est un empire sur Tamriel. Ça, en tout cas, ils en ont parlé. Ça, c'est intéressant. Ils ont aussi promis que, à l'arrivée au niveau 50, qui sera pour le moment le maximum du jeu, ça soit que le départ de l'aventure pour les joueurs. Alors, parce qu'on sait que certains MMO, The Old Republic, par exemple, ont eu des soucis à haut niveau, puisqu'il n'y avait pas assez de contenu pour faire que les joueurs restent longtemps. The Elder Scrolls Online promet que ça ne sera pas le cas avec ce jeu-là. Donc bon, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même dans le domaine de beaucoup beaucoup de promesses. Il faut faire attention avec les promesses, parce qu'il faut les tenir, ces promesses aussi.
Et aussi sur le plan technique, je crois qu'ils ont justifié le côté cartoon, qui moi personnellement me plaît pas, mais bon, ça c'est très subjectif.
Moi non plus, ça me plaît pas énormément. La raison pour laquelle ils sont entre guillemets obligés de faire un style un peu plus simple que dans le reste des Elder Scrolls RPG solo, c'est qu'ils veulent absolument afficher des centaines de personnages à l'écran en même temps. Et du coup, on peut comprendre pourquoi ce choix a été fait. Mais c'est vrai que ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est certain.
Bon, en tout cas, moi, le fait de pouvoir visiter tout Tamriel, je vous dis tout de suite, ça m'emballe. Bon, après, évidemment, encore une fois, je pense que l'un des principaux intérêts des Elder Scrolls solo, c'est vraiment que tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Et forcément, dans un MMO, tu peux pas faire tout ce que tu veux, sauf quand c'est un MMO hardcore, et je suis à peu près persuadé que ça ne sera pas un MMO hardcore. Donc, je pense quand même que ça sera pas à mettre entre toutes les mains.
C'est possible.
Ça plaira pas à tous les fans, je pense, parce que vraiment, on peut dire ce qu'on veut sur le fait que oui, les Elder Scrolls, c'est des MMO solo, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les Elder Scrolls ont une expérience solo assez spécifique.
Ah oui, c'est sûr.
Où justement, le jeu est tellement centré sur toi qu'en fait, c'est juste inadaptable tel quel en MMO, quoi. Donc, il y aura forcément des concessions.
Et des concessions aussi, enfin, un système de combat assez étrange, ils en ont parlé, qui se jouera uniquement à la souris. Et ça me plaît pas trop pour MMO, mais bon.
Ah ouais,
je suis pas joueur émérite de MMO, mais déjà ça me plaît pas énormément.
Alors moi je t'avoue que après Guild Wars 2, ça me fait faire tout le rôle
c'est clair.
De rejouer, enfin la souris, si tu veux, elle sert juste à pointer les ennemis, quoi, dans Guild Wars 2.
Voilà. Et bah là ce sera pas le cas. En gros, un clic gauche c'est pour attaquer, un clic gauche maintenu c'est pour voilà maintenir le enfin charger la force de votre coup, et le clic droit ça sera pour parer les coups, vous protéger. Alors ça, on imagine que c'est seulement pour les comment ça s'appelle, les combats au corps à corps. Après, est-ce qu'on, quand on est mage, est-ce que ça sera la même chose? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ils ont détaillé ce système-là. Alors moi, personnellement, je suis pas hyper emballé là-dessus.
Bon, dans tous les cas, c'est une affaire à suivre, n'est-ce pas?
2013, en tout cas. On sait pas exactement quand, mais c'est prévu pour 2013.
Ok. Ils ont annoncé une alpha, une bêta
Rien du tout.
Ok.
Pas encore.
Pas encore. Bon, de toute façon, dès qu'ils ouvriront les inscriptions, je pense que...
Ouais, c'est sûr.
Leur site qui va être vite down, ça... ouais,
très certainement.
Ouais. Par contre, j'espère vraiment pour eux que leur système de serveur unique il est costaud, parce que
il y a intérêt,
Eve ouais. Online, ok, ça marche, mais c'est 100 000 joueurs, 150 000 abonnés, quoi.
C'est ça.
Ça a jamais été prévu pour 1 million, 2 millions, ce genre de choses, quoi. Donc, ouais, il a intérêt à être en béton armé, hein, le système.
Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec toutes ces promesses. Parce que voilà, les promesses, c'est facile de décevoir les gens qui les ont entendus.
Voilà. Bon, ensuite, on va parler de StarCraft 2 avec enfin une option que je pense qu'on était beaucoup à attendre, c'était le Global Play. Alors, qu'est-ce que c'est, Morgan, le Global Play?
Alors, bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais StarCraft 2 a un système de serveurs, un système de serveurs nord-américains, européens et asiatiques. Ce qui fait que les joueurs, par exemple, qui ont une version du jeu européenne, ne peuvent pas se connecter au serveur nord-américain, et idem pour le serveur asiatique. Ça, c'est quelque chose qui est gênant, notamment pour les joueurs professionnels, qui doivent avoir un certain nombre d'alias et de jeux différents pour pouvoir jouer justement sur le serveur asiatique, pour jouer contre des Coréens par exemple, ou contre des Nord-Américains sur le serveur américain. Et du coup, ça c'est quelque chose qui avait bon un petit, enfin évidemment ça aide à vendre des jeux, hein. ne nous mentons pas, mais c'est vrai que ça, c'est un peu gênant. Alors on sait maintenant que Blizzard a prévu un patch pour amener ce Global Play sur StarCraft 2 Wings of Liberty, et pas Heart of the Swarm, qui est pour le moment dans sa phase de bêta. Et donc ça, c'est intéressant, puisque du coup, les joueurs pourront changer de serveur régional sans avoir de compte particulier nord-américain, asiatique ou européen. Du coup, ça leur permettra, par exemple, de saigner le ladder américain,
et de se faire éclater en Corée.
Et de se faire éclater en Corée. Alors attention, parce que on sait pas, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de lag entre le serveur européen et asiatique, et que généralement un joueur coréen contre un joueur européen ont tendance à se battre sur le serveur nord-américain pour avoir un problème de lag un petit peu moins conséquent. On sait pas exactement comment ils vont faire ça, comment ils vont s'arranger là-dessus. Mais en tout cas, c'est déjà une avancée. On pourra aussi avoir ces listes d'amis sur les différents serveurs. Donc la liste d'amis sur votre serveur européen, enfin sur votre compte européen, ne sera pas la même que sur votre compte asiatique, par exemple. Et même chose pour vos points de ladder, etc. Donc en gros, avec votre compte là que vous avez, mettons le tyran à son compte sur le serveur européen, maintenant, quand le Global Play sera disponible dans quelques mois sur StarCraft 2, il pourra choisir de se connecter quand il veut faire une partie de ladder sur le serveur nord-américain, se faire défoncer, et puis revenir sur le serveur européen.
Bon, de toute façon, moi, tu sais, que ce soit sur le serveur nord-américain, même européen, je me fais défoncer partout, donc argent forever, yeah.
Donc voilà, ça sera disponible sous forme de patch dans quelques mois sur Wings of Liberty, et bien évidemment, ça sera disponible sur la prochaine extension Heart of the Swarm, et on a appris que Heart of the Swarm sortira dans la première moitié de 2013, donc on a encore le temps de voir venir.
Et on a aussi appris au passage qu'il y aurait une extension de Diablo 3 qui sortirait bientôt. Bon, évidemment, on s'en doutait un peu, donc voilà.
Ça paraît logique.
Bon, ouais. Maintenant, on va aborder le cas de Microsoft, n'est-ce pas?
Oui.
Avec Halo 4 qui ne sera pas porté sur PC. Dommage. Bon, franchement, est-ce que c'est une surprise?
Pas du tout. On a fait nos petites recherches d'ailleurs, et on s'est rendu compte que depuis Halo 2, et son portage en 2007 sur PC, Halo 2 sur Xbox est sorti en 2004, hein, juste pour voilà. Bien planter les choses. Il n'y avait plus eu d'Halo sur PC. Même pas Halo Wars, qui était pourtant un RTS. Donc voilà. Donc Halo, c'est très clairement une licence Xbox et Xbox 360 maintenant pour Microsoft. Donc c'est vrai que c'est pas du tout surprenant, mais ça, voilà.
D'un autre côté, je veux dire, on sait très bien que sur PC, enfin, Microsoft est techniquement un concurrent de Valve, quoi. C'est un concurrent de Steam. Mm-hmm. Donc quelque part, bon, comme ils savent que de toute façon leur jeu il se vendra pas s'ils ne le mettent pas sur Steam, parce que faut pas se leurrer, voilà. Enfin, tu me diras, remarque que Electronic Arts a bien réussi le pari de mettre, voilà quoi, avec Mass Effect, ils ont poussé Mass Effect pour remettre en avant Origin, quoi, bien très sûr. Clairement. Je pense qu'ils l'ont plutôt réussi, a priori. Le souci, c'est que moi, je pense que sur PC, Halo, ça a clairement pas la popularité d'un Mass Effect, par exemple, quoi.
Oui, c'est sûr.
Ne serait-ce que parce que Microsoft se fout de notre gueule depuis le début, alors que BioWare et EA ont été à peu près réglo à ce niveau-là, quoi. Mm-hmm. Donc bon, le truc, c'est que bon, du coup, des FPS, de toute façon, il y a un Whatmill sur PC. Donc évidemment, enfin, Halo, même si c'est une licence que moi j'apprécie énormément, le fait est que la concurrence, voilà quoi, elle est là.
Exact.
Et en plus, bon, de toute façon, ils ont jamais fait d'efforts au niveau des portages, donc je veux dire, c'est pas comme si les gens les attendaient non plus, quoi. Donc à moins vraiment d'y mettre des gros moyens, etc. Mais je pense que pour la licence en tout cas, c'est peut-être un peu trop tard. Quoi.
Bon, en tout cas, c'est symptomatique de la position de Microsoft par rapport au PC et à la Xbox 360. C'est-à-dire que la Xbox 360 prend tout et le PC se tape Windows 8, quoi.
Ben quoi, t'as quelque chose contre Windows 8?
Rien du tout, je vois pas de quoi tu parles.
D'accord. Bon, ensuite on va enchaîner sur Miyamoto, qui... à chanter l'évangile, je crois, ouais. auprès des développeurs et des éditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement, le sœur Miyamoto?
C'est un peu ça. En fait, j'ai l'impression que Miyamoto, en ce moment, est en phase de... Enfin, c'est la guerre de religion, en gros, pour Miyamoto. Il est... Nintendo l'a envoyé aux États-Unis pour faire le tour des développeurs et des éditeurs tiers pour vendre sa Wii U et faire en sorte que les développeurs développent sur Wii U, tout simplement. Parce qu'on sait que c'est vraiment un problème des consoles de Nintendo en général, c'est que les éditeurs tiers sont là au départ et puis après, ils se cassent, quoi.
Ouais.
Voilà, donc en gros, Miyamoto essaie de faire les éloges des développeurs et des éditeurs tiers, notamment américains, pour qu'ils développent sur Wii U. Donc en gros, il dit, le vrai sujet est de savoir si je vais être capable de convaincre les développeurs travaillant pour les éditeurs qu'il faut être excité à l'idée des nouvelles fonctionnalités de la Wii U. Et ensuite, il continue, et il dit que, de toute façon, ils ont le talent et ils ont le savoir-faire, puisque la Wii U, selon lui, n'est pas si différente d'une Xbox 360 ou d'une PS3, d'architecture, a priori. Et je cite, il s'agit du processus de décision de la compagnie, donc l'éditeur, dans son entier, qui fait obstacle à la capacité du développeur à créer des titres uniques pour la Wii U. Et là, c'est vraiment une petite pique aux éditeurs qui, en gros, Miyamoto dit, si les développeurs peuvent pas développer sur Wii U, c'est de la faute des éditeurs, qui ne voient pas encore d'intérêt à développer sur Wii U.
Je suis pas sûr que ce soit un bon plan pour convaincre les mecs justement qui financent, mais...
Exactement. c'est un peu violent, connaissant Miyamoto, c'est un peu surprenant, mais bon.
Non, mais en plus, il peut dire ce qu'il veut, le père Miyamoto, mais il y a un problème, c'est que, en tout cas chez les techniciens, peut-être pas chez les game designers, mais en tout cas chez les techniciens, je pense que ça excite plus, tu vois, de bosser sur la prochaine génération,
oui.
Parce qu'on sait qu'ils ont l'équipe de développement, etc., que de bosser sur, en gros, une console qui a une techno qui date de très longtemps, quoi, on va dire. Certes, au niveau des consoles actuelles, mais le problème, c'est que les consoles actuelles, elles sont périmées, donc... On sent clair, nous, à Game Info, la Wii U, on est très attiré par cette console. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que est-ce que les éditeurs vont suivre la Wii U alors que une nouvelle génération va débarquer. Bon, a priori, d'après ce qu'on sait, la PS4, c'est pas pour tout de suite. Ils sont pas pressés, mais en même temps, vu leur situation financière, on comprend.
Pas étonnant.
Donc, est-ce que finalement le Sony va être le sauveur de Nintendo, n'est-ce pas?
Voilà, ça, en fait, tout dépend justement de l'arrivée de la next génération ou pas. C'est tout simplement ça. Et voir à quel point cette nouvelle génération aura du succès, ça, on ne sait pas non plus. Et s'il n'y a pas de succès sur la nouvelle génération, ça peut aider la Wii U, évidemment. Mais pour le moment, c'est vrai que le gros point d'interrogation sur la Wii U, c'est est-ce qu'elle va déjà se vendre et pérenniser la présence des éditeurs tiers, ce qui est, très franchement, moi j'en doute un peu. Il y aura certainement des jeux éditeurs tiers jusqu'à la sortie des consoles next-gen, et après, ça sera vraiment le succès des consoles next-gen qui fera la présence ou pas d'éditeurs tiers sur la Wii U.
Le souci de Nintendo, je pense, c'est que la seule console où ils ont réussi à faire ça, c'est la DS, en fait.
Ouais.
Et oui, mais c'est la DS, c'est parce qu'ils étaient en quasi monopole sur le marché, quoi.
Exact.
Alors que là, les consoles de salon, c'est pas tout à fait la même, quoi. C'est un peu différent.
Oui, et encore, la Wii était était bien devant les consoles HD, les anciennes consoles HD, quoi. Et pourtant, les éditeurs tiers ont tout simplement quitté la Wii, sauf les développeurs japonais avec de très gros RPG. Les éditeurs tiers occidentaux ont tout simplement laissé tomber la Wii.
Oui.
Donc c'est faut faire attention aussi parce que le monopole ne fait pas tout, malheureusement.
Ouais, et il y a un autre problème aussi, c'est que on le sait tous, les exclus au jour d'aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, quoi.
Ouais.
Je veux dire, maintenant un jeu il sort sur PC, console, téléphone portable, voilà, il sort partout maintenant. Et le souci, c'est que justement, la Wii U, c'est un périphérique aussi, assez spécial. C'est une manette écran avec un concept, enfin, il y a une idée derrière, tu vois. Le problème, c'est que pour vraiment exploiter ce concept, il faut faire une exclu.
C'est ça.
En tout cas, un jeu qui exploite vraiment le concept, qui soit pas juste gadget, quoi.
Oui, qui soit pas juste un portage, quoi.
Voilà. Et ça, moi, je suis pas sûr que les éditeurs, ils aient envie de se lancer là-dessus, comme ça. Bon, comme d'habitude, il y a Ubisoft qui est toujours au premier rang, voilà, mais...
Oui, et qui a l'avantage d'être un petit peu inventif aussi, hein. Certains développeurs chez Ubisoft sont assez inventifs, et ça, c'est bon pour la Wii U.
Mais voilà, c'est en tout cas c'est pas une tendance de l'industrie de faire des exclus comme ça. Donc voilà, moi je pense que d'une manière générale le statut Nintendo ça sera de savoir combien de temps va durer cette génération actuelle, même si la prochaine sort. C'est-à-dire bon, en général ce quand ça s'appelle Microsoft, hein, parce que bon on connaît Microsoft. quoi que Nintendo c'est pareil, hein, tu me diras c'est même pire.
Après Nintendo pourrait très bien acheter des exclus comme ils l'ont fait pour Bayonetta 2 par exemple. Ça c'est envisageable aussi. C'est parce que bon quoi qu'on en dise, les exclusivités Nintendo ça vend aussi, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas forcément du goût de tout le monde.
Là où je veux en venir, c'est que Microsoft et Nintendo en général ils ont une tendance, enfin l'arrêt c'est assez brutal. Hein. Moi, je me souviens du GameCube. D'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça aussi que j'ai pas acheté de console Nintendo de salon depuis, parce que j'ai eu tellement mal aux fesses, si vous voulez, que voilà. C'était un peu pareil pour la Xbox à l'époque. Enfin, ça a été un peu moins violent, si tu veux, mais enfin voilà.
Ouais, là, ce sera moins violent sur la Xbox 360, à mon avis, puisque justement les éditeurs tiers sont vraiment présents sur le multiplateforme. Du coup, ça sera à mon avis différent.
Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça va un peu jouer par rapport à la stratégie de Sony,
ouais.
Parce que si Sony décide de prolonger le plus longtemps possible cette génération, très clairement Nintendo en profitera. Hein, je veux dire voilà, les éditeurs ils ont une console, bon peut-être ce sera pas des jeux optimisés effectivement, mais il y aura des jeux sur Wii U en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. C'est le plus important pour le moment pour vendre une console.
Et finalement, est-ce que le fait d'avoir certes, beaucoup de jeux qui finalement ne sont pas des exclus, mais d'avoir le catalogue Nintendo derrière, ça sera pas ça la clé de voûte pour la Wii U, quoi. Parce que, mine de rien, pour les fans en tout cas, et même pour le grand public, je pense qu'avoir le catalogue Nintendo, et à côté avoir peut-être un catalogue moins spécifique à la Wii U, mais qui soit accessible... ça peut être intéressant, quoi.
Ouais, mais ça aurait été encore d'autant plus intéressant si c'était venu il y a 4 ans. Enfin bon,
voilà.
Ça c'est un autre débat.
Ouais. Allez, c'est tout pour le sort Miyamoto. On passe maintenant à un bug assez scandaleux, je pense que tu seras d'accord avec moi,
Ouais.
sur Assassin's Creed Vita.
Ouais.
Alors, en gros, de ce que j'ai compris, il y a un gros blocage.
Oui, alors Assassin's Creed 3 Libération est sorti, il me semble, le 31 octobre sur PlayStation Vita. Et en gros, il y a un énorme bug qui vient d'être mis à jour. En fait, c'est certains joueurs sont bloqués dans l'animus de leur Assassin's Creed Libération. Bon, en gros, l'animus, c'est le système dans lequel vous choisissez vos missions ou les séquences de mémoire que vous voulez accéder.
En gros, c'est quand tu joues avec Desmond, quoi.
Exactement. Et en gros, il y a une espèce de freeze d'écran qui fait que vous pouvez plus jouer. Et donc, même si on éteint et on rallume la console, vous retomberez sur l'animus d'Assassin's Creed Libération, ce qui fait que du coup vous pouvez plus jouer, en gros. Et donc pour le moment
Ballot.
Ubisoft est au courant bien évidemment, essaie de travailler là-dessus pour sortir un patch le plus vite possible, mais pour le moment il n'y a rien qui a été fait. Ça fait une semaine hein, au moment où on enregistre ce podcast. Et ouais, moi, bon, c'est le genre de bug choquant qui arrive, je trouve, de plus en plus souvent. Alors, je sais pas si c'est plus médiatisé, mais très franchement, on a eu le cas bah, l'année dernière avec Zelda Skyward Sword. On a eu, enfin, on a eu d'autres exemples comme ça récemment aussi. Et je trouve que ça devient courant et c'est pas justement parce qu'on a la possibilité d'envoyer un patch comme ça assez rapidement qu'il faut justement se reposer sur ses lauriers quoi. Enfin, je suis assez étonné que ce genre de bug énorme fasse encore l'actualité.
Parce que encore un petit bug, bon, ça va, on peut
Bien
pardonner quoi. Je veux
sûr.
dire, moi qui suis développeur, je sais que des fois, t'as beau faire plein de tests, des tests, des tests, des tests, ben le machin il sort et tu te rends compte que c'est quand il est sorti que voilà que les utilisateurs finaux sont tellement nombreux qu'ils finissent par trouver le truc que t'avais raté quoi. Mais là quand même c'est voilà quoi, c'est énorme quoi. Enfin, c'est carrément le jeu qui bloque. Je veux dire. Là, c'est le genre de truc que tu peux pas laisser passer, quoi. À un moment donné, faut playtester à fond les jeux, quoi.
Ouais, moi
Faut pas déconner, quoi.
je me rappelle de Borderlands 2 très récemment, un bug qui effaçait votre sauvegarde, quoi. Et même chose, le Zelda Wii, le dernier Zelda Wii, c'est si vous faisiez tel donjon avant les autres, et ben la sauvegarde s'éteignait, enfin la sauvegarde s'arrêtait, quoi. C'est impressionnant quand même.
Bof, en tout cas, on espère que ça va s'arranger pour ceux qui ont été frappés par
Oui,
ça, parce
on
que...
espère que vous serez pas frappé d'ailleurs.
Non, parce que franchement, je m'imagine les pauvres, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Vita, alors
Bah,
si en plus les jeux qui sortent...
moi, je pensais à notre cher Mikado qui joue à Assassin's Creed Libération en ce moment, qui va peut-être nous le tester un jour en podcast. Si ça lui arrive, ça va être un petit peu la merde, quoi.
Bah, je crois que il va être funky le test, hein, si ça arrive,
C'est
mais...
clair. C'est clair.
Bon, on termine maintenant par un gros morceau, n'est-ce pas? Avec, évidemment, GTA V.
Alors, GTA V, ça fait un bon moment qu'il y a des rumeurs qui tournent un petit peu partout sur Internet et les fans qui hurlent pour un nouveau trailer du jeu. On sait notamment que c'est sûr, il va sortir au printemps 2013. Donc ça, c'est déjà une avancée par rapport aux gens qui disaient ouais, mais il va jamais sortir. Donc, comme souvent, c'est Game Informer, le magazine américain, qui a l'exclusivité des premières informations sur les très très gros jeux. On se rappelle d'Assassin's Creed 3 hein, en début d'année dernière.
Skyrim aussi,
Skyrim, donc voilà,
pareil.
c'est... Bon, le problème de Game Informer, c'est que généralement, ils mettent pas 30 minutes avant d'être pillés sur Internet, avant que leur dossier soit pillé sur Internet. Mais bon, voilà, ça c'est des informations à se mettre sous la dent, et on sait notamment qu'il n'y aura pas un seul, mais trois personnages principaux. Et ça c'est quelque chose d'intéressant, à mon avis, parce que on sait aussi que le monde sera juste énorme. Et si on a juste un seul personnage, ça fait vraiment immense, à mon avis, à explorer pour un seul petit personnage. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Rockstar a parlé à Game Informer et disait que la carte de GTA V équivaut à celle de Red Dead Redemption, plus celle de GTA 4, plus celle de GTA San Andreas.
Alors que déjà rien que celle de Red Dead Redemption, énorme quoi. Donc,
c'est juste énorme. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait en gros, je sais pas moi, au minimum 3 fois la carte de Red Dead Redemption. Donc c'est juste énorme. Alors attention, c'est pas parce qu'un monde est grand qu'il est intéressant.
Ouais. Moi, c'est, je t'avoue, c'est un peu ça qui me fait peur. Bon, dans Red Dead Redemption, si tu veux, les événements aléatoires, ça marchait parce que bon, c'est un western. Mm. Et mine de rien, quand c'est un western, tu peux te permettre de faire plein de trucs, oui, quoi. Alors que là, je veux dire, GTA, on est dans un monde moderne. Bon, a priori, tu vas pas tomber sur un braquage à chaque coin de rue.
Bien sûr. Mais alors, c'est vrai que du coup, avec les événements aléatoires, ça peut diversifier les choses, qui seront de retour, hein, qui depuis Red Dead Redemption, maintenant Rockstar balance les missions aléatoires. Je trouve ça très intéressant pour dynamiser un petit peu le monde. Évidemment, plus il y en a, plus elles sont variées, mieux c'est. Mais espérons, enfin, on sait que Rockstar a la capacité et l'expérience de faire des mondes qui sont énormes et vivants. On en a eu l'expérience avec Red Dead Redemption notamment. On peut espérer ne pas être déçu de ce côté-là.
Aussi, il y a un truc qui est très important par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi on a dit que on ne serait pas trop d'avoir 3 personnages? C'est parce que on pourra switcher d'un personnage à l'autre durant la partie.
À tout moment. Et donc avec a priori un effet un peu Google Earth dans les transitions des personnages, ça peut être intéressant à mon avis. Ça peut être joli déjà à voir. Et il y a aussi un aspect très intéressant, c'est-à-dire que du coup quand vous utilisez un personnage, vous utilisez pas les deux autres. Donc qu'est-ce qu'ils font ces personnages-là? Ils restent plantés là pendant 2 heures? Non, ces personnages continuent à se déplacer et continuent à vaquer à leurs propres activités. Alors je sais pas exactement comment ça va le faire, mais si ça provoque pas de bug, ça peut juste être énorme quoi.
Je sais pas, t'imagines que tu switches sur un autre perso, faire un truc et tu te retrouves en plein barquage. Oh merde, c'est quoi ce bordel? En plus, ça pourrait se dire.
tu te retrouves à la plage en train de faire bronzette. Non, ça, franchement, si le système marche, ça peut être vraiment vraiment super intéressant. Il faut savoir que les 3 personnages auront des missions en commun.
Parce que ils se connaissent. Hein.
Ils seront amenés à faire des missions tous les 3. Ou même deux personnages et pas le troisième. Et aussi, il faut savoir que chacun de ces personnages a sa propre sphère d'influence. Chacun a un métier différent, chacun a un âge différent, chacun a un passé différent, un style différent. Et du coup, je pense que ça ne peut qu'amener une certaine variété supplémentaire au jeu.
Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces 3 personnages? Parce que je crois qu'on a eu quelques précisions là-dessus.
Alors, en gros, donc 3 personnages. Trevor, qui a 40 ans. C'est un accro aux drogues, tout simplement. C'est un ancien pilote dans l'armée. Et a priori, il est agressif et violent. Et donc, accro aux substances hallucinogènes, ça paraît logique qu'il ait une certaine violence. C'est un homme caucasien, on va dire. Franklin, qui a la vingtaine, c'est un Afro-américain. Il habite le sud de Los Santos. Il est employé dans un concessionnaire automobile et il est souvent chargé d'aller chercher les impayés. Et enfin, on a Michael, qui a lui aussi la quarantaine. C'est un ancien braqueur de banque et vu qu'il a tout simplement lâché ses potes au FBI, il fait partie du programme de protection des témoins, mais bon, sa retraite lui pèse un petit peu, il va certainement replonger dans GTA V.
Et du coup, là, on comprend un peu mieux le trailer qu'on avait vu, oui, où c'était précisément ce personnage-là qui parlait.
Exactement, ouais. Michael, qui vient de la côte Est, et qui maintenant est donc à Los Santos. Los Santos, pour ceux qui connaîtraient pas, on l'a découvert donc dans GTA San Andreas, et c'est une ville très très inspirée de Los Angeles. Voilà, et il faut savoir qu'il n'y aura pas que la ville dans GTA V, mais aussi tous ses environs, la campagne, énormément de choses à faire, et énormément de choses à découvrir dans ce monde. Donc vraiment vraiment des choses intéressantes dans Los Santos à voir. Il faut aussi peut-être parler du la prise en main des véhicules. C'est quelque chose qui est souvent reproché à GTA.
Oh mais clairement les savonnettes c'est juste pas possible quoi.
La prise en main des véhicules, c'est vrai que c'est très 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 arcade et très savonnette. Et a priori, donc Rockstar aurait travaillé là-dessus pour une meilleure adhérence et un côté peut-être entre guillemets simulation des de la conduite automobile. Donc ça peut être intéressant à découvrir. À savoir aussi qu'ils ont amélioré le système de combat, que ce soit aussi en termes de combat à distance et de combat au corps à corps. Donc voilà, à découvrir bien évidemment et énormément d'activités annexes. Et de véhicules comme des hélicoptères, des avions, du BMX, des jet skis, des activités annexes comme le yoga, du golf, du base jumping ou encore du triathlon, enfin des trucs absolument fous. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de choses à faire dans ce GTA V. En tout cas, plus on en découvre, plus ça donne l'eau à la bouche. Donc voilà. Et encore cette petite réserve qu'on gardait à The Elder Scrolls Online, c'est-à-dire que c'est bien de promettre beaucoup de choses, c'est aussi bien de tenir ses promesses. Bon, c'est vrai que j'ai plus
là c'est Rockstar,
c'est,
quand
même. C'est Rockstar, donc j'ai beaucoup plus confiance en Rockstar et d'autant plus que c'est un GTA et pas un MMO. Donc voilà.
Surtout que bon, le concept, mine de rien, le concept des trois personnages, ils avaient déjà commencé à le développer un peu avec GTA 4, parce que finalement, Luis Lopez, il croisait Nico Bellic, enfin voilà, tout ce petit monde s'entrecroisait. Il y avait, tu sentais bien qu'il y avait un embryon de quelque chose. Et là vraiment, j'attends de voir avec impatience ce qu'ils vont faire.
Ouais. Et a priori, le thème principal du jeu, ça sera le braquage. Donc voilà, des choses intéressantes en perspective, à mon avis.
Encore un jeu qui va faire le 20h, n'est-ce pas?
Oh oui, ça c'est certain, ça va faire hurler Famille de France, évidemment. Donc, on attend le printemps 2013 avec impatience.
Ok. Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire sur GTA V, je pense. Un jeu qu'on attend énormément ici, également.
Oui, ça c'est certain.
et on va maintenant passer aux dates. Donc, StarCraft 2, Heart of the Swarm. Pour le premier semestre 2013. Ouais.
Donc ça peut très bien être mi-juin, comme ça peut très bien être février, mais je pense que ça sera plus vers mi-juin.
Bizarre.
Très personnellement. Déjà, si on prend l'exemple de Wings of Liberty, donc le premier StarCraft 2, il était sorti, il me semble, en juillet. Donc ça serait pas étonnant que ça arrive vers cette date-là.
Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Fin d'été 2013.
Donc c'est le 2, hein, pas le 1. Le 1, il sort le 28 novembre. Et il était prévu pour le 30 novembre. Finalement, il sortira deux jours avant.
Ok. Bon, écoute, on va attendre de voir si c'est un bon remake.
Espérons-le.
Ensuite, pour finir, Routine. Alors, je ne connais pas, donc est-ce que tu peux nous présenter un peu?
En fait, c'est un survival horror en full 3D dans l'espace. Que je viens juste de découvrir en fait avec un trailer d'annonce de la date et ça a l'air bien flippant. A priori donc c'est un FPS et enfin c'est pas un FPS, c'est en vue subjective et donc en fait la chose que vous tenez à la main c'est un espèce de petit scanner qui vous et voilà donc moi déjà pas avoir d'armes dans la main ça me fait très très peur et du coup j'aime bien moi ça me fait penser par exemple à Metroid Prime quand tu scannais les choses il y avait des trucs qui t'arrivaient à la tronche. Je pense que ça va être ça un petit peu Routine. C'est et dans l'ambiance ça ressemble un petit peu à l'ambiance du film Moon, je sais pas si vous connaissez. On commence sur une station orbitale. Alors, on pourra peut-être d'ailleurs aller explorer la planète qui est en dessous. Voilà. En mars ou en avril 2013 sur Steam.
D'accord. Et pourquoi le ou en fait?
Parce qu'ils savent pas exactement.
D'accord.
Pour le moment c'est un petit peu en mode printemps 2013, mais ils savent que ça sera soit mars soit avril. C'est tout.
Ok. Bon voilà. C'est terminé pour l'actualité cette semaine. On va passer au jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est un jeu créé par le studio Might and Delight. C'est un jeu où vous jouez un petit garçon, et ça s'appelle PID. Franchement, tu parles d'un titre à coucher dehors.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, je vous dis pas, les moteurs de recherche, ils ont pas fait dans la facilité, là. Hein. Donc, PID, comme je disais, c'est un jeu de plateforme où vous incarnez un petit garçon. Et en fait, le concept de base de ce jeu, c'est que, à un moment donné, au début du jeu, vous allez récupérer une espèce de pierre brillante. Et cette pierre, en fait, va vous permettre d'invoquer des rayons de lumière. Et ces rayons de lumière, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils annulent la gravité. Mmh. Alors, pour vous présenter un peu l'histoire, parce qu'il y en a une, un peu plus développée d'ailleurs que dans la moyenne des jeux de plateforme, mais bon, rassurez-vous, rien de bien complexe non plus, n'est-ce
pas? La princesse n'est pas dans ce château.
Non. Alors, en gros, c'est un petit garçon qui, un beau jour, rentre chez lui en bus spatial, parce que c'est un univers futuriste, quoi, en gros. Enfin, un univers futuriste, comment dire. Au début, c'est un univers futuriste, mais en fait, si vous voulez, c'est un mélange de futuriste, rétro. Vraiment, c'est une ambiance assez spéciale, mais j'y reviendrai plus tard.
D'accord.
Donc, ce petit garçon prend son bus, et puis, il s'endort pendant le trajet. Et à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, le bus passe devant une planète. Il est comme appelé par cette planète et il apparaît sur la planète. En fait, il a été enlevé du bus, quoi. Et donc, bon, vous l'aurez compris, l'idée, c'est que, bon, il est un peu paumé, quoi, sur cette planète. Il aimerait bien rentrer chez lui. Donc, il va se rendre à la prochaine station de bus. Et, ah, merde, il y a un problème. C'est que ça fait... genre 300 ans qu'ils attendent le bus à cette station. D'ailleurs, il y a un mec, il est arrivé là enfant, ça fait 300 ans qu'il attend le truc. Il y a une petite ambiance un peu à la film de comme dans un film de Miyazaki, si
ouais.
Enfin, c'est vraiment tu rentres comme ça dans l'univers, c'est assez bien foutu. Et on lui dit très clairement que le bus apparemment il est un peu dans la cambrousse, donc ils se disent que bon, peut-être qu'ici il n'y a pas de bus, mais normalement si tu vas en ville il y en a un, quoi, qui marche. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est que il va falloir se rendre en ville et pendant son trajet il va donc récupérer ce fameux pouvoir qui était enfoui sous un château, et il y a tout un scénario qui se développe à partir de ça.
D'accord.
Voilà. Donc le concept vraiment, donc comme je vous l'ai dit, c'est la lumière, c'est-à-dire que vous allez créer des rayons de gravité et en gros, à partir de ça, donc, il va y avoir des phases de plateforme et il va y avoir aussi des puzzles. Mmh. Donc, déjà, est-ce que tu as des questions par rapport à ça, mon cher?
Oui, j'aimerais bien savoir comment ça se joue, en fait, avec, comment on joue avec le rayon de gravité.
Bon, c'est pas compliqué, hein. Soit tu tires à gauche ou à droite, ou en bas.
Mmh.
Et donc, t'as ton tir qui tombe, et dès qu'il rencontre une surface, en fait, il va créer un rayon de lumière qui va s'élever dans la direction vers laquelle penche cette surface. C'est-à-dire que bon, si la surface est horizontale, le rayon il va apparaître à la verticale. Si la surface est en diagonale, le rayon il va être en diagonale, évidemment. Donc voilà. Le problème c'est que je pense que le tir n'est pas assez précis. C'est-à-dire que en gros, quand tu le balances à gauche ou à droite, déjà, il le tire pas genre en ligne droite. Il le balance, hop, il fait un arc de cercle, il retombe.
Ah oui, d'accord.
Et ça, par exemple, moi, j'aurais bien aimé avoir la possibilité, je sais pas moi, de tirer au-dessus ou de tirer en diagonale vers la droite ou vers la gauche, tu vois, vers le haut ou vers le bas. Sauf que ça, c'est pas possible en fait.
D'accord.
Alors certes, au début, ça passe parce que si tu veux, le jeu est assez permissif et il n'y a pas encore des puzzles très très complexes. Le problème, c'est que plus tu vas avancer dans le jeu, et plus en fait le jeu va se corser, que ce soit au niveau de la plateforme, des puzzles et même j'ai envie de dire du rythme d'une manière générale, c'est-à-dire que il y a vraiment des moments où de plus en plus ça va se jouer au poil de cul près, où va falloir développer des réflexes et où là ça va poser problème.
D'accord.
Donc bon, pour compenser un peu ce que je viens de dire, faut quand même pas déconner. C'est pas non plus super pénalisant quoi, c'est juste que voilà, il faut prendre le coup de main quoi, on va dire.
Habitué.
Et d'une manière générale, j'ai envie de dire que le game design est conçu comme ça, est conçu pour s'adapter à ce rayon-là.
D'accord.
Et d'autant plus que plus tard en fait, tu vas récupérer une arme qui est le lance-pierre en fait.
D'accord.
Et le lance-pierre lui te permet de tirer dans toutes les directions.
D'accord. Et le rayon à gravité, il t'attire, il te repousse.
Il te repousse.
D'accord. Donc en fait, tu flottes un petit peu dans le rayon à gravité en fait. Ok.
Il te repousse et à un moment donné, tu vas tomber.
D'accord.
Donc toujours, il y a toujours un moment donné où bon, des fois, si tu veux, en gros, l'idée c'est que vraiment, tu vas être au-dessus du vide, quoi. Il va falloir créer le prochain rayon gravité sur lequel tu vas sauter, parce qu'il faut savoir qu'en plus, non content de te repousser. Le rayon de gravité a un timer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, il va disparaître.
D'accord.
Donc bon, en général, il dure assez longtemps, hein, faut pas exagérer non plus, mais au bout d'un moment, il disparaît.
D'accord.
Donc forcément, ça crée des puzzles, enfin des situations assez complexes où et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans le jeu, si tu veux, c'est qu'au début, au début du jeu en fait, c'est un simple jeu de plateforme où bon, le rayon de gravité bon, tu l'exploites quoi, mais c'est pas non plus des trucs complexes. Et en fait, d'une part, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas découvrir des trucs. Donc ils vont commencer à introduire les puzzles, et après ils vont commencer à introduire de nouveaux items qui vont être exploités avec le rayon de gravité. Exemple de base, par exemple, à un moment donné, un des premiers items que tu découvres, c'est les bombes.
D'accord.
Un peu comme dans Zelda, pareil. Et en gros, l'idée, c'est que à un moment donné, par exemple, tu vas découvrir les bombes à retardement, et en fait, il y a des puzzles où il va falloir utiliser la bombe à retardement. Par exemple, il y a un passage où je peux pas passer. De l'autre côté, il y a un espèce de robot qui fait des allers-retours comme ça. Et en fait, avec la bombe, il va falloir l'introduire dans un tout petit trou. Évidemment, tu l'auras deviné, tu vas la faire avancer avec le rayon. Et en fait, tu vas la faire avancer, elle va retomber pile poil au moment donné où elle a explosé sur un espèce de bloc qui va libérer une nouvelle sortie pour le robot en fait. Et ce robot va aller actionner un interrupteur qui va t'ouvrir une porte.
D'accord.
Et ça, c'est un des puzzles de base. Et de plus en plus, tu vois, au fur et à mesure, ils vont rajouter des puzzles comme ça qui exploitent non seulement les items, mais en plus le côté plateforme, quoi.
D'accord. Et il y a un... De ce que tu parlais d'items et tout, est-ce qu'il y a un côté progression? Tu sens vraiment que tu t'améliores ou c'est simplement à travers les différents objets en fait que l'univers se débloque en fait?
Je précise, c'est un jeu qui quand même est assez linéaire. Même si t'as des niveaux qui sont assez grands, tu peux explorer. Il n'en demeure pas moins que tu dois aller d'un point A à un point B.
D'accord.
Après, tu y vas comme tu veux. Mais d'une manière générale, les niveaux sont assez linéaires, surtout au début où là, pour le coup, c'est vraiment très couloirisé.
D'accord.
Ça s'ouvre un peu plus par la suite, mais voilà.
Donc il n'y a pas vraiment d'exploration à la Metroidvania.
Bah, si tu veux, c'est pas un Metroidvania, très clairement.
En tout cas, ça peut donner cette illusion-là en termes de défilement 2D.
Ouais, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment un pur platformer 2D.
D'accord.
Après, comme je l'ai dit. Les niveaux à un moment donné s'ouvrent, si tu veux. Et en gros, ça se joue vraiment sur la verticalité,
D'accord.
quoi. Et tu vas vraiment pouvoir les explorer à fond pour découvrir des trucs, des items cachés, etc.
D'accord.
Alors, c'est peut-être aussi un des défauts du jeu, c'est que ce jeu est pété d'items cachés. Il y a plein de trucs, enfin, Par exemple, tu peux récupérer des souvenirs dans le jeu, ça s'appelle. En gros, c'est des items. C'est un peu comme les étoiles dans Mario, quoi, si tu veux. D'ailleurs, il y a des étoiles aussi, sauf qu'elles servent. C'est la monnaie du jeu, en fait. Le problème, c'est que, par exemple, à la fin de chaque niveau, tu n'as pas, genre comme dans Dishonored, un récapitulatif des objets que tu n'as pas trouvés. Je pense que ça aurait été bien, tu vois, pour inciter à la collectionnite,
Ah oui.
d'avoir un récapitulatif pour te dire, bah là, en fait, t'as pas trouvé tous les objets, quoi.
Donc c'est possible de terminer le jeu sans avoir tout, en fait.
Ah oui, non, mais c'est même, je pense, c'est quasi obligatoire, hein,
D'accord.
parce que si tu veux, les étoiles déjà au début du jeu, en fait, t'essayes de toutes les avoir. Mais plus tu vas avancer, il y en a tellement, les niveaux sont tellement grands que voilà, tu vas pas t'amuser à explorer tout le niveau non plus, quoi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je sens que là je fais bondir les fans de Mario. Est-ce que si tu veux, le jeu a un autre problème, le système de sauvegarde, c'est un système de checkpoint en
D'accord.
fait. Alors au début ça va, parce que les checkpoints sont assez rapprochés. Mais en fait, plus tu vas avancer, plus les checkpoints vont être espacés. Et comme le jeu est quand même assez exigeant, c'est pas non plus au niveau d'un Super Meat Boy, mais c'est quand même un jeu assez difficile.
D'accord.
Très clairement, si vous n'aimez pas les jeux difficiles, passez votre chemin, je vous le dis tout de
OK.
suite. Et le problème, c'est que avec un système de checkpoint comme ça, quand c'est assez espacé, bah forcément, t'as pas envie de crever, quoi. Parce que t'es un peu blasé quand tu recommences au checkpoint, quoi, j'ai envie de te dire. Donc forcément, t'as moins tendance à explorer. Et t'as plus tendance à un peu prendre sur toi si tu veux, à te dire, bon, là, je vais pas faire le con, hein.
D'accord.
J'avance.
OK. D'accord. Ouais, il y a une espèce, il y a la peur de mourir.
Voilà.
OK.
Bon, d'un côté, évidemment, quand t'es amateur de challenge comme moi, c'est top.
Ouais, c'est clair.
Mais de l'autre, c'est clair que même quand t'es amateur de challenge, il y a un moment donné où tu dis, bon, ouais, là, on va pas déconner non plus, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Je vais pas risquer ma vie à aller essayer d'atteindre cette toute petite plateforme-là où il va falloir faire 36 000 rayons pour y arriver. Et je suis même pas sûr. Ça se trouve, je vais me casser la gueule et voilà. Très clairement, t'y réfléchis à deux fois, quoi.
D'accord. Donc du coup, ça apporte de la durée de vie, j'imagine, ce challenge un peu permanent.
Ah oui, ce jeu est long. Messieurs, dames, moi, il m'a fallu 19 heures
Ah
pour le
oui,
finir, ce jeu.
d'accord.
Pour un jeu plateforme indépendant, de qui plus est,
C'est
c'est quand même
correct,
pas mal.
ouais.
Bon, sachant que quand même, j'ai pris un peu mon temps. Clairement, le jeu, par contre, moi, je vous le dis, je l'ai pas du tout terminé à 100%. Même à 50%, je l'ai pas terminé. Parce
Ah
que,
oui.
par contre, il y a un récapitulatif à la fin du jeu. Alors autant tu vois pas les étoiles que t'as manquées, autant tu vois les souvenirs que t'as manqués.
D'accord.
J'ai même pas, je pense, j'ai même pas le quart des souvenirs en fait.
Ah oui.
Parce que si tu veux, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que un peu comme dans un Sonic, tu sais que les anciens Sonic en 2D, il y avait des passages cachés. Et bien là, tu retrouves ça dans Pid, il y a plein, 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 plein de passages cachés dans les murs, dans les décors, etc. Et c'est super bien fait quoi. Il y a toujours un indice. Si tu veux, qui te dit, ah, là, ah, là, je sens, il doit y avoir un truc,
Ok,
là.
donc c'est pas des passages cachés qui sont impossibles à trouver, quoi.
Voilà. Si je les ai pas trouvés, en l'occurrence, c'est parce que, voilà. À un moment donné, dans le jeu, t'es plus tellement dans le trip, j'explore à
Ouais.
fond, c'est plus, j'essaie de résoudre le puzzle qui est en face de moi,
D'accord.
j'essaie d'avancer,
Ouais,
quoi.
ok.
Alors, c'est peut-être, pour certains, ça sera peut-être un défaut. Moi, je sais pas, Après, c'est vrai que ça apporte du challenge, mais de l'autre côté, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait savoir bien doser le challenge, quoi. C'est ça le problème.
D'accord.
Je pense qu'avec des checkpoints peut-être un peu plus rapprochés, ça aurait été mieux.
D'accord. Mais c'est en tout cas, c'est pas insurmontable, quoi.
Ah non, c'est
OK.
pas insurmontable. C'est juste que si tu fais pas gaffe, ben, tu te fais avoir, quoi.
D'accord. Ouais. C'est compliqué le die and retry si le checkpoint est pas prêt, quoi. Ouais.
Bah, le truc, c'est que c'est pas tellement du die and retry, en fait. Enfin, si tu veux, c'est pas un jeu où tu vas crever comme ça, parce que hop, il y a un piège qui apparaît comme
Ouais,
ça. Non, non, non,
d'accord.
c'est vraiment, t'as un puzzle, ou t'as un passage de plateforme, tu prends bien le temps de réfléchir, parce que, alors très clairement, c'est un jeu posé, c'est pas un jeu où tu vas speeder, c'est un jeu, en fait, où vraiment, à un moment donné, tu te poses, tu observes bien les plateformes, tu dis, ah oh, allez, ok. Alors là, je crée ma plateforme là. À ce moment-là, j'ai utilisé tel item. Voilà, tu fais ton plan dans ta tête Et ensuite, il y a l'exécution derrière.
D'accord.
Quoi.
Donc, c'est pas de la plateforme frénétique comme pourrait l'être un Mario ou un Sonic ou un Rayman.
Bah, si tu veux, ce qui est pas mal, c'est que le jeu varie les plaisirs. Il y aura des passages de course-poursuite où là, très clairement, tu pourras te faire avoir, on va dire. Où là, ça sera beaucoup moins posé. Effectivement, il faudra être beaucoup plus réactif, etc. Et d'ailleurs, c'est vraiment une des qualités du jeu, c'est que le game design se renouvelle, mais tout au long de l'aventure. Très clairement, c'est l'un des gros points forts du jeu, c'est que moi, j'avais un peu peur, si tu veux, qu'ils aient trouvé ce concept-là et qu'ils se reposent un peu sur leur laurier. Mais très clairement, non seulement ils se renouvellent au niveau des items, etc., mais en plus ils rajoutent, ils ont à chaque fois de nouvelles idées, quoi.
Okay.
Ils rajoutent de nouveaux éléments, de nouvelles idées. Il y a toujours un petit truc en plus à chaque niveau. Mais le problème, c'est que à côté de ça, et c'est un des reproches que je fais au jeu, le personnage principal, qui est un petit garçon, donc je le rappelle, est un peu court sur pattes, si tu veux. C'est clairement pas un champion d'athlétisme, d'une part. Et il est un peu lourd.
Ah oui.
C'est vraiment, il y a une espèce de lourdeur dans le personnage, même dans les sauts, si tu veux. Tu sens que, voilà.
Il a mangé trop de chips.
Voilà. Même c'est un petit bibin, je sais pas, allez voir les images du jeu, c'est un petit bibin d'homme, un peu comme ça. Enfin bref, il est un peu, voilà quoi. Quand il saute, tu sens que ah ouais, je saute, hein. Mais et quand t'atteins une plateforme, c'est vraiment parce que t'es allé au bout du mot du saut, quoi. C'est clairement pas un Rayman ou un Sonic. D'accord. Où là, ça va, ça fonce à toute berzingue. Non, c'est pas du tout ça.
D'accord.
Et moi, justement, moi qui suis plutôt pour le coup déjà un gros amateur de Sonic et en plus que j'apprécie énormément Rayman, je pense que ce qui manque au jeu, s'il devait vraiment y avoir un truc qui manque vraiment à ce jeu, c'est un personnage un peu plus speed. Parce que du coup, moi je t'avoue que les phases de course-poursuite, elles ont pas mal, mais ça aurait été tellement mille fois mieux avec un personnage de speed, quoi.
Ouais. Et ça c'est le côté plateforme, tu sais, quand tout va bien, quand tout s'enchaîne hyper rapidement, c'est un sentiment d'accomplissement, en fait, qui est d'autant meilleur que si c'est rapide.
Ouais,
quoi.
Tout simplement. En plus de ça, il y a un autre souci. Il y a un temps de latence, en fait, entre le moment où tu entres une commande et le moment où elle s'exécute. Alors, au début, tu ne remarques pas ça, parce que le jeu est assez permissif. Mais à la fin, quand le jeu vraiment se joue vraiment au poil de couperet, là, tu t'en rends compte, en fait. Ouais. Par exemple, il y a un passage où il y a plein de trucs qui s'effondrent à un moment donné. Et vraiment, ça, tu dois aller au bout du bout, au niveau des sauts, etc. Et là, je me rappelle, à un moment donné, tu as vraiment une toute petite plateforme, et vraiment, vous attendre la dernière seconde pour sauter. Et moi, si tu veux, je vois bien que je suis sur la plateforme, je suis encore dessus, j'appuie sur le bouton saut, et le perso ne saute pas. Et là, je fais... Bon, du coup, il y a un coup à prendre, quoi, en fait. Mais c'est assez frustrant, quoi, si tu veux, parce que ça manque de la réactivité d'un Super Meat Boy, quoi, si tu veux. Parce que Super Meat Boy, pareil, il y a des passages vraiment tout aussi exigeants, si tu veux, mais Super Meat Boy, t'appuies sur le bouton, ça répond au quart de tour, quoi.
Ouais.
Et là, ça pose vraiment problème sur la fin du jeu, quoi. Bon, encore une fois, c'est un coup à prendre, je le dis bien, hein. Une fois que t'as pris le coup, ça va. Tu avances, mais c'est pas non plus un défaut majeur, je tiens à insister, mais ça peut être très frustrant par moment, quoi. Surtout sur la fin où les checkpoints sont assez punitifs, quoi.
Ok, donc ça coûte combien, Pid?
Ça coûte, il y a deux prix en fait. Il y a 10 €, enfin non, pas 10 €, 10 $. 10 €,
c'est okay, donc c'est moins cher que 10 €,
c'est sur Steam. 10 $, ouais. C'est soit sur le site du développeur directement, je vous incite à aller là-bas bien évidemment comme d'habitude, soit sur Good Old Games. Et il y a aussi une édition à 20 $ où là en gros vous aurez la musique du jeu, d'ailleurs je vais en reparler mais ça déchire sa race, où vous aurez en plus des artworks, des concept art, etc. Bref, c'est une édition assez complète. Mais rien que pour la, moi je vous dis rien que pour la bande, ça vaut le coup, quoi. Bref, à 20 $, c'est assez raisonnable. Et de toute façon, le jeu, d'une manière générale, il vaut largement. Et à 10 $, c'est une affaire.
Très bien.
Je voulais aborder un peu quand même, l'aspect artistique du jeu. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui vraiment, qui a une ambiance assez spéciale. Au début, moi, j'ai ressenti un petit trip, enfin, dans le design, si tu veux, c'est pas du Miyazaki, mais la manière dont c'est amené, ça m'a vraiment rappelé le voyage de Chihiro, enfin ce genre de choses quoi. Et en plus, moi ce que j'ai trouvé vraiment super chouette, dû par la direction artistique, avec elle est très juste, enfin c'est une direction très épurée, avec des personnages, enfin on dirait des marionnettes en fait, si tu veux. C'est vraiment des marionnettes en bois. C'est vraiment, c'est un jeu, tu peux pas le confondre avec un autre jeu, quoi. Le héros aussi, là, c'est un gamin, si tu veux, mais il est une putain de bonne bouille, quoi. C'est vraiment super. La musique. Je crois que c'est la meilleure bande son de l'année, hein. Mais, enfin, là, je
Ah
suis pas
ouais.
objectif parce que c'est un peu, c'est du jazz, et moi, le jazz. Voilà.
D'accord.
Mais, il y a vraiment, il y a des passages au saxo, en solo, qui est dans un labyrinthe. Oh! Voilà, et même d'une manière générale, si tu veux, t'as toujours cette bande son qui change, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle se renouvelle, c'est comme les niveaux. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi les niveaux, que ce soit au niveau de la direction artistique visuelle, t'as toujours des thèmes différents, il y a jamais une répétition, ça se renouvelle tout le temps. La bande son qui l'accompagne, c'est pareil, et même à la fin du jeu, d'un écran à l'autre, t'as une musique différente, en fait. Parce que je précise, c'est des écrans, hein. Il y a des niveaux, mais en fait, les niveaux, ils sont pas d'un seul bloc. Il y a des
D'accord.
écrans, en fait. Bref, franchement, ce jeu est une perle. Au niveau de
OK.
l'ambiance, c'est une tuerie. Et en plus de ça, donc, à côté de ça, malgré, je l'ai critiqué assez ouvertement, mais faut pas déconner, quoi. Le gameplay est super bien branlé. Ils ont toujours de nouvelles idées. Ils se renouvellent tout le temps. Enfin, c'est un jeu intelligent, quoi, si tu veux. Ils ont eu un concept de base, qui est ce rayon antigravité, et ils l'ont amélioré au fur et à mesure.
D'accord.
C'est un putain de bon jeu de plateforme, qui a des défauts, qui aurait pu être un jeu culte, je pense, s'il avait été un peu speed, et s'il avait corrigé tous les petits défauts dont j'ai parlé là. Mais en tout cas,
Ouais.
c'est un excellent jeu de plateforme.
Okay. Et une affaire en plus, hein. Sorti sur Xbox 360, PS3 et PC.
Ouais, je précise qu'il y a un mode coopératif aussi, et
Ah.
malheureusement c'est en local, donc j'ai pas pu y jouer.
Ah,
Ça
zut.
pourrait peut-être faire partie des défauts aussi, un peu comme en Rayman Origins, un mode coop en ligne, s'il vous plaît, ce serait bien.
Ouais. Il faudra sortir Pid Legend.
Voilà, Pid Legends, ça serait cool ça. Mais franchement, les mecs, je pense que ils pourraient faire quelque chose sur Wii, hein, si s'y mettaient. Ils ont tellement de bonnes idées que voilà.
Ok, bah très bien.
Welcome to the new MI6.
I'm your quartermaster. You must be joking.
Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
Q.
007.
I want to meet your employer.
How much do you know about fear?
All there is.
Well, not like this. Not like him.
Just look at you, chasing spies. England, MI6. She sent you after me, not when you're not ready, not when you would likely die. Mommy was very bad. The two survivors, this is what she made us.
Everybody needs a hobby.
So what's yours?
Resurrection.
Skyfall, c'est le nouveau James Bond, donc le 23e épisode de la saga de James Bond. Il a mis 4 ans de gestation avant de sortir. Donc le dernier épisode était de triste mémoire, selon moi. Il s'appelait Quantum of Solace, et bon, qui nous avait laissé avec un goût un peu amer avec James Bond. Et là, Skyfall, donc c'est non seulement le 23e épisode de James Bond, mais c'est aussi le 50e anniversaire de James Bond. Cette année. Donc c'est un épisode un peu clé et qui a eu enfin qui a déjà pas mal de succès donc qui marque le coup en tout cas. Donc au niveau du scénario, donc sans spoiler, c'est le siège du MI6, donc l'agence de 007 est attaqué en plein cœur de Londres et James Bond revient pour affronter un dangereux terroriste qui utilise l'informatique pour causer la terreur. Et il va être amené à parcourir le monde pour le piéger. Donc on va notamment aller à Istanbul, Shanghai, Macao et bien évidemment le Royaume-Uni. Parce que c'est un épisode très très britannique en fait. Donc c'est, déjà c'est Londres qui est attaqué. Ensuite là, on va dire le dernier tiers du film se passe au Royaume-Uni. Donc on sent qu'il y a un fond très patriotique derrière ce film, même si c'est pas lourd comme pourrait l'être un film purement patriotique. Donc la première chose qui frappe, c'est que James Bond n'a jamais été aussi en danger dans un de ses films, aussi bien physiquement que mentalement. On découvre dans le premier tiers du film un personnage complètement ruiné à la suite d'un événement traumatique. Et du coup, on entre plus facilement en empathie avec ce personnage, tout simplement parce qu'il endosse une certaine fragilité, alors sans bien sûr devenir une petite vierge effarouchée, hein, c'est pas du tout ça, mais disons que un personnage comme James Bond, qui généralement est vu presque comme invulnérable, ça fait du bien de lui découvrir ce côté, voilà, ce côté un petit peu brisé.
Mais est-ce que justement le jeu d'acteur suit le côté brisé du personnage?
En tout cas, au début du film, complètement. Donc rappelons que c'est Daniel Craig maintenant qui est James Bond depuis 3 épisodes. C'est un choix qui a été un peu controversé, surtout pour James Bond. Et moi personnellement, je trouve que son James Bond est justement intéressant dans le fait qu'il est différent. Et justement dans Skyfall, il est complètement dans le personnage et qu'on amène ce côté fragile et brisé au personnage est à mon sens très intéressant. On peut aussi voir que Skyfall comme un épisode de transition. Alors c'est le 50e anniversaire de James Bond cette année, mais on sent Skyfall comme un film à la fois empreint de tradition et de nouveauté. Je vais vous laisser découvrir pourquoi je dis ça, mais le scénario est très très centré sur le personnage de M, donc qui est le supérieur hiérarchique de 007, joué par Judi Dench, qui est une actrice britannique excellente. Et donc d'une part, c'est une bonne idée de centrer le film sur ce personnage-là parce que bon, déjà l'actrice est incroyable, mais aussi parce que ça donne enfin à son personnage autre chose à faire que rabrouer James Bond. Donc elle est autre chose que le rouage comique et ça fait plaisir d'avoir un film qui s'articule vraiment autour d'elle et ça donne vraiment quelque chose de très intéressant.
En tout cas, t'as l'air très attiré là. Il y a des défauts à ce film ou
Alors j'y viens. Les scènes d'action sont aussi impressionnantes, même s'il y en a pas beaucoup. Elles sont beaucoup moins désagréables à regarder que dans le précédent. Donc c'est.
Tu reprochais quoi exactement au précédent pour que nos auditeurs comprennent bien
En fait, ce que je reproche aux scènes d'action du précédent, c'est que il y a le procédé qu'on appelle la shaky cam, c'est-à-dire que pour filmer une scène d'action, on embauche un caméraman qui a Parkinson et on secoue la caméra pour faire style, c'est beaucoup plus intéressant. Je déteste ce procédé-là. Exactement. Et donc ça vraiment, j'ai détesté ça. C'était pas présent dans Casino Royale, mais c'était ultra présent dans Quantum of Solace. J'ai détesté ça. Dans Skyfall, ça l'est pas du tout. Et ça donne justement des scènes d'action qui sont bien plus pures en termes de photographie. Et c'est vraiment très agréable à regarder. Pour continuer avec les gros points forts, le générique du début est juste à tomber par terre. Et bon, alors maintenant, défaut. Selon moi, le seul véritable défaut du film, c'est les James Bond Girls. Alors bon, c'est les James Bond girls généralement ont pas forcément un rôle hyper intéressant.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En général, quand tu vas voir un James Bond, tu t'attends pas. Voilà quoi.
Mais dans celui-là, j'ai été frappé par la faiblesse de la James Bond girl qui est française, Bérénice Marlowe. Et en gros, son personnage, tout ce que fait son personnage, c'est avoir peur. Et du coup, bon, déjà, elle est pas présente très longtemps. Et son personnage est d'une telle faiblesse que tu restes vraiment sur ta faim, quoi. Alors bien sûr, la James Bond girl, elle est là juste pour la scène coquine du film, mais très franchement, j'ai été frappé par justement un personnage aussi faible, quoi. C'est pas longtemps présent à l'écran. Et un personnage qui n'est que caractérisé par sa peur, je trouve pas ça très intéressant.
Est-ce que tu dirais que finalement ils auraient pu très bien ne pas la mettre en fait du coup?
Alors j'ai l'impression qu'en fait il manque des. En fait je pense qu'ils ont coupé des scènes de la James Bond girl à mon avis, qu'il manque quelque chose du coup parce que. Évidemment, dans un James Bond, il faut toujours la scène d'amour avec la James Bond girl, mais du coup, ça tombe presque comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que, enfin, le personnage en lui-même est pas intéressant. C'est ça. Alors, soit il y a une erreur d'écriture, ce qui est envisageable, hein, soit il y a eu de la coupe au montage, ce qui est aussi envisageable, et qui nous manque quelque chose au niveau de ce personnage-là. Donc voilà, c'est les deux pistes à étudier. Peut-être que dans les bonus DVD, on aura la réponse. Mais en tout cas, c'est très clairement pas la réussite du film, ce personnage-là.
Est-ce que tu considères que c'est vraiment un film qui apporte quelque chose à la mythologie de James Bond ou
Je pense que c'est un épisode clé concernant l'avenir de la licence James Bond. J'ai vraiment l'impression que après celui-là, la licence James Bond va prendre un nouveau souffle en fait, dans le sens où justement il met en place donc un personnage qui a des fêlures et aussi des personnages qui vont par la suite être importants a priori. Donc du coup c'est pour ça que je disais un épisode de transition, c'est-à-dire que on a tout ce qui faisait le sel d'un James Bond dans les 50 années précédentes. Mais on a aussi ce regard vers l'avenir, en fait. Alors, on sait pas forcément si ça sera Daniel Craig qui sera toujours James Bond, mais en tout cas, il y a des piliers qui viennent d'être remis en place pour la saga James Bond. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que Skyfall ravive la flamme 007, et c'est pas forcément une mauvaise
idée. Tu penses qu'en gros, ils ont introduit aussi de nouveaux personnages récurrents
Ah oui.
D'accord.
Bah, déjà, ça se voit, le personnage de Q, donc si vous connaissez un petit peu James Bond, c'est celui qui crée tous les gadgets de 007. Déjà ça c'est un nouveau qui fait très très nerd et ça c'est un acteur assez bon aussi britannique. Et du coup oui, on sent les bases de la suite en fait, de l'avenir. Donc on a à la fois le regard vers le passé et le regard vers l'avenir, ce qui fait de Skyfall un épisode de transition assez intéressant. Donc avec du suspense, avec de l'action, avec un personnage qui n'est plus si invulnérable qu'avant, mais ça fait plaisir à voir, et de nouveaux thèmes à aborder dans la saga. Donc oui, très franchement, j'ai été très convaincu.
Et ça dure combien de temps tout ça?
2h20. C'est assez long, mais franchement, ça passe comme une lettre à la poste. Peut-être le début un tout petit peu long parce qu'il met en place certaines choses, mais au final. Ouais, parce que en fait il y a du suspense et du coup ah oui, je l'ai pas dit, j'en ai pas du tout parlé, mais le personnage du méchant joué par Javier Bardem, c'est très important, un méchant dans James Bond, vraiment vraiment bien.
Parce que je t'avoue, la manière dont tu l'as présenté au début, ouais, un terroriste machin, ouais, bon.
ouais disons que en fait c'est pas tant ce qu'il fait, mais comment il agit en fait. Qui est particulièrement intéressant. Et là pour le coup, on en revient au jeu d'acteur. L'acteur qui joue ce personnage est vraiment bon et donne donne son sel au personnage, et il y a une scène qui est particulièrement intéressante de ce personnage-là. Oui, non, franchement, ça pourrait devenir un des meilleurs vilains de James Bond, en tout cas. Donc, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Et voilà, moi, je tiens pas mal dans mon cœur Casino Royale. Et je mettrais presque Skyfall au même sur un plan d'égalité avec Casino Royale. Donc c'est dire que j'ai aimé le film, quoi.
D'accord. Bon, pour rien ajouter.
Rien ajouter sur Skyfall, mais on a loupé une info absolument cruciale de la planète jeux vidéo cette semaine. C'est l'anniversaire du tyran.
Happy birthday to you.
Merci. Merci. Bon, ok. Bon, bah oui, c'est mon anniversaire. Bon. Allez, messieurs, dames, rendez-vous la semaine prochaine.
Avec ATH peut-être, Mikado peut-être aussi, on ne sait pas.
Ouais, par contre, moi, il y a des chances que je ne serai pas, que je ne sois pas là. Donc, a priori, ça parlera d'Assassin's Creed 3. Je ne me fais pas spoiler, mais...
C'est certain, oui.
En espérant que le réveil de monsieur ATH sonnera.
Oui, cette fois, on verra, ouais.
Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Bye bye.
Salut à tous.